Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast tant attendu Les gars de poule. C'est parti mon ami. Alors, Philippe Bellefeuille et Daniel Savoie, comment tu vas, Phil?
Super, super. Ça faisait un petit bout. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. On se parle pas beaucoup en dehors du podcast. Fait que
on n'est pas encore assez amis.
C'est ça.
Mais non, mais moi, je continue mon World Tour. Et puis là, je suis sur la côte ouest américaine. Ce soir, je vais voir les Sharks qui jouent contre les Flames en date du 10 février.
Nice. Il y a des bons joueurs sur la glace, même si les équipes, même si San Jose, c'est voir Eric Carlson, voir Burns, Joe Thornton quand même, c'est ses derniers
mille
aussi.
Oui, tout à fait. J'aurai la chance aussi de faire un arrêt à Denver. Il y a un match à Denver. Je vais m'arranger pour aller le voir. Puis sur la route, je vais m'arrêter à Milwaukee. Il y a Frédéric Allard, un gars que je connais un petit peu grâce à Marc-Édouard Vlasic, justement, qui joue pour les Admirals, le club école des Prédateurs. Fait que je vais aller voir une game de la Ligue américaine à Milwaukee.
Puis, c'est tout le temps le fun de voir les prospects. Comme là, c'est le temps d'aller voir Kotkaniemi à Laval. Pour vrai, c'est exactement pour ça que c'est le fun d'avoir le club école à côté. On peut vraiment voir les jeunes qui se développent. Puis on s'entend, là, le Kotkaniemi, c'est un excellent joueur, il va être bon. Fait allez le voir à Laval, là, c'est le temps que c'est le temps d'aller le voir live sans que le ticket coûte 200$. Là, fait que
c'est bon pour lui. Là. Il avait besoin de ça, de reprendre sa confiance, d'avoir des minutes. Je pense que dans le développement d'un joueur, c'est important. Puis il y a ceux qui paniquent avec Kotkaniemi puis qui parlent déjà qu'on a raté son développement, qu'on a fait des erreurs. Moi, j'aurais un mot, là, c'est calmez-vous. Là.
L'an passé, il y avait du fun, puis cette année, il n'y en avait plus. Puis c'est exactement... c'est un jeu, hein, le hockey. Fait que quand t'as pas de fun, il y a bien des chances que tes performances soient pas à la hauteur. Fait que qu'il ait sa confiance. Puis quand t'as de la confiance, t'as du fun. Puis à date, il fait des bonnes choses. Je pense que 7 points en 4 matchs, là, c'est quand même très bon. Là. Donc, je pense pas, comme tu dis, qu'il va. Ça me surprendrait bien gros qu'il joue des matchs l'an prochain. Puis cette année même, ça me surprendrait pas qu'il remonte puis qu'il finisse l'année.
Ah, tu vois, moi là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, Phil. J'ai l'impression que cette année, le dossier est réglé dans le cas de Kotkaniemi. Je pense pas qu'on va le revoir à Montréal. Je pense que là, le Canadien est dans une stretch pour faire les séries. Puis je pense qu'ils ont choisi leurs joueurs. Je pense que si on voit Kotkaniemi, c'est vraiment s'il y a des blessures. Je pense qu'on touche du bois parce qu'on leur souhaite pas ça. Présentement, leur ligne de centre, avec Suzuki, avec l'émergence de Suzuki,
c'est dur de faire
une place pour Kotkaniemi, je pense. Parce que tu as Dano, tu as Suzuki, tu as Domi, puis tu as Thompson.
Par contre, quand tu disais le monde panique, il ne faut pas oublier Suzuki, au même âge, il était dans le junior. Puis Kotkaniemi a quand même au-dessus de 150 matchs d'expérience dans les pros en 2 ans. Là. Fait que, je pense que l'an prochain, s'il arrive avec le sourire au visage et qu'il a du fun, il va être le joueur qu'on pense qu'il est supposé devenir. Là.
La patience, mesdames, messieurs. C'est pas un match, c'est pas une défaite, c'est pas une victoire, c'est l'ensemble. Il faut toujours rester calme puis regarder ça un peu avec du recul. Mais bon, assez parlé de la Ligue américaine, rentrons dans les choses sérieuses. Et j'ai fait une petite recherche statistique pour voir un peu les tendances pour la fin de la saison. J'ai regardé les statistiques des joueurs en date d'aujourd'hui depuis le 1er janvier 2020. Puis j'ai eu bien des choses qui m'ont surpris. Puis je te lance la question comme ça pour voir si tu l'as vu venir. Selon toi, qui est le meilleur pointeur depuis le mois de janvier dans la Ligue nationale?
C'est une bonne... Depuis le 1er janvier, le meilleur pointeur? Kucherov?
Bonne réponse! Yes. Nikita Kucherov, très fort! Écoute, il a 26 points en 17 matchs.
Ouais, je l'ai dans mon pool, puis il me faisait paniquer un peu au début de l'année, mais là, il va bien. Fait que c'est pour ça que j'ai lancé mon
guess. Tu sais, on parlait d'être calme puis de regarder, de ne pas se laisser emporter par un match, une défaite, une victoire ou une mauvaise séquence. On parlait au début de l'année de Nikita Kucherov, d'un début de saison un peu plus lent puis ouais. toute la patente. Ben regarde, tu sais, c'est-tu quoi Nikita Kucherov? Il s'en va vers une saison de 80, points. Peut-être même 80, 90 points. Je ne sais pas 100 points, je ne sais pas s'il va taper le 100 points. Mais
ben, il est déjà rendu à 67, je pense. Il reste 28 games.
Pour elle, ouais, t'as raison. Surtout que là, il est en feu en fin de saison. Depuis le mois de janvier, on le voit. Fait que, oh, t'as raison, tabarouette. Le 100 points est possible pour Nikita Kucherov. Donc, c'est grosse fin de saison. Puis son coéquipier, Steven Stamkos, est deuxième depuis la même période avec 23 points en 17 matchs.
Ben écoute, j'ai les deux dans mon pool aussi. Fait que je suis passé de dernier à deuxième en dedans de un mois là, dans mon pool. Mais pour revenir à ça, tu sais, l'an passé, les Tampa Bay, ils ont tout cassé dans la saison régulière, ils se font sortir en 4. D'après moi, ils ont appris, tu sais, un moment donné, quand ça compte, là, ces gars-là, ils ont peut-être fait, OK, tu sais, le début de saison, ils ont peut-être moins été la pédale dans le plancher, mais là, cette année, je sais pas, on dirait que personne ne parle de Tampa Bay comme des contenders, ben, mais colique, c'est bon, ils sont là.
Je pensais à ça, justement, hier, en m'endormant. Hein, tu vois que je suis un passionné d'hockey en m'endormant, je pense au Lightning de Tampa Bay. mais je me disais... Ils font peur cette année. Beaucoup plus peur que l'an prochain. Exactement pour les raisons que tu viens de mentionner. Ils sont undercover cette année. Ils ont eu un lent début de saison. On ne parle pas d'eux autres. Puis là, ils sont en train de piquer au bon moment. Ils ont une bonne fin de saison. Ils vont entrer dans une série gonflée à bloc. Puis je peux te dire une chose, ils ne se feront pas sortir en 4 cette année. Là. Je peux pas te confirmer.
La même affaire est arrivée avec Washington. L'année qu'ils ont gagné la Coupe, oui. C'était, ils ont eu une saison un peu moins flashy qu'ils ont eu les autres années d'avant, puis gars, ils ont été jusqu'au bout. Fait que...
C'est une question de momentum, de comment tu rentres dans les séries, je pense que ça compte pour beaucoup. On l'a vu l'année passée, là, s'il y en a qui se souviennent bien, là, le Canadien bataillait fermement avec les Hurricanes puis les Blue Jackets. C'était comme ces trois équipes-là pour deux places en série, là, s'il y en a qui se souviennent bien. Puis on a vu ce que ça a donné. Hein. Les Blue Jackets et les Hurricanes ont connu un bon playoff run quand même. Là. Les deux équipes ont gagné des rondes. Puis c'est pas compliqué, les trois équipes en fin de saison, là, ils étaient dangereuses. J'écoutais beaucoup de matchs des Hurricanes, beaucoup de matchs des Blue Jackets, puis c'était des équipes qui étaient en feu.
Il y avait le couteau entre les dents.
Hein. Exactement. Fait que quand tu arrives avec cette énergie-là, puis cet élan-là en série, t'es dangereux.
Puis au contraire, Tampa Bay est arrivé flat. Les dernières deux semaines, Tampa Bay ont eu comme plus de défaites que quasiment le reste de l'année aussi. Là.
Ben oui, il y avait une saison parce que Nikita Kucherov avait en tête de battre le record de 130 points. Les gars jouaient pour les statistiques. Il y avait une saison, tu sais, je veux dire, il n'y avait plus d'enjeu. Il avait gagné trop tôt. Donc, c'est ça qui est arrivé. Mais revenons aux joueurs qui performent bien depuis depuis le début de l'année. Ce qui m'a frappé aussi, c'est à Toronto, même si Toronto connaît un peu des hauts et des bas côté victoire et défaite, il y a Austin Matthews et Mitch Marner qui ont quand même chacun 20 points en 15 matchs. Connaissent des bonnes saisons. Dans le cas de Matthews aussi, là, c'est 13 buts à ses 15 derniers matchs.
Ouais, il a déjà le 40 buts en date d'aujourd'hui.
Oui.
Il est égal avec Ovechkin. Je pense. Hey, tu te rappelles qu'on parlait en parlant de buts, qui va gagner le remorque
Richard?
Puis là, t'avais Pasternak qui était. T'as collé le bon vieux Ovechkin.
Ah oui, je m'en souviens très bien.
Il était
loin derrière, mais tu vois, moi, tu peux pas parier contre Ovechkin. Surtout, c'est un gars. Lui, dans sa tête, il a 50 buts. À chaque année, il veut l'avoir. Puis à un moment donné, il ouvre la machine. Puis. Écoute, le gars, il ne ralentit pas. C'est incroyable. Là.
Ça n'a pas de
il y a
sens.
Quelques, il y a deux ans, on parlait, peut-être le record de Wayne, ça, c'était une long shot. Là, ça devient tangible. Là. C'est incroyable. Les prochaines années vont être vraiment le fun de suivre ça.
Ouais. Ce record-là, c'est quelque chose.
Écoute,
là. Tout n'importe quel record de Gretzky que tu vas chercher, c'est quelque chose. Donc,
mais surtout de le faire à l'époque où il a joué contre. Il n'a pas joué dans les années 80 où les goalers, il goalait avec des pads en carton, là, puis il se pitchait partout. Ce gars-là, il est. Écoute, c'est un temple de la renommée automatique, puis c'est de le voir jouer, c'est quelque chose. C'est vraiment. Sa carrière là, jusqu'à date, là, c'est wow. C'est Alex Ovechkin.
Ouais.
Du côté de Boston, il y a un petit mystère qui règne à Boston. Le trio Bergeron, Marchand, Pasternak est très inégal. Pasternak a 19 points à ses 16 derniers matchs. Bergeron en a 12, puis Marchand en a 10. Donc là, on dirait que
Oh, Brad, depuis qu'il a échappé le puck, on dirait.
Exact.
Ça y a joué dans la tête pour
ben
vrai.
Ben oui, 16 points en 10 points en 16 matchs, c'est on s'entend, c'est pas mauvais, mais c'est en deçà de sa production. Puis Bergeron, 12 en 16. Puis Pasternak, lui, ça ne l'affecte pas. Il poursuit sur sa lancée.
Mais watch bien, tu sais, des fois, t'sais, un peu comme on avait parlé aussi, quand on prend un échantillon, exemple, de 15 matchs en début de saison, il paraît plus gros aussi parce que c'est le début de saison. Tu sais, s'il avait fait 10 points en 16 matchs au début de l'année, on dirait ça va pas bien, tout ça. Là, vu que c'est au milieu de l'année, ça paraît moins, mais check les bains, lui. S'il y a bien un gars que je pense qu'il va rebondir, c'est sûr, c'est un gars comme Marchand. Fait. Lui, il va être prêt d'un playoff. Fait que, watch bien sa fin de saison. Là, on s'en reparlera pour ses 16 prochains matchs.
Oui, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de le suivre. Parce que moi, il y a un de mes joueurs favoris ever, Patrice Bergeron, qui a quand même 34 ou 35 ans, si je ne me trompe pas. Là, 16 points, 12 points à ses 16 derniers matchs. Mais dans le cas de Bergeron, ça fait comme quand même 2-3 années là, qu'il joue avec des blessures. Là. Il traîne des petits bobos à gauche à droite.
Ouais.
Je me demande, tu sais, c'est quand le moment où un athlète comme ça, parce que l'âge rentre en ligne de compte, il va être capable de garder ce rythme-là, Patrice, pour encore combien de temps, tu penses? Est-ce que le jeu commence à rentrer dans son cas?
Ben là, c'est sûr qu'il a 34, il a exactement mon âge, là, Bergeron, il a 34 ans, puis je pense que ce qui arrive, c'est que oui, il y a eu des blessures, mais je pense qu'ils savent, ces gars-là savent se gérer aussi pendant un match. Tu sais, c'est comme, tu sais, le kid de 22 ans, là, il va aller chercher le check, puis il s'en fout, tandis que lui, il y a des situations dans le match que... Il dit ça vaut pas la peine d'aller se brûler. Là, mm-hmm. Je trouve que c'est ça que le changement. Un gars, le meilleur exemple que j'ai là-dedans, c'est Lidström. Lidström, s'il était capable de jouer de même, tu regardais Lidström à la fin, là, le gars, il frappait pas. Il savait exactement quand mettre le pied dans le fond puis quand relaxer. Fait que, je pense que c'est vraiment ça le secret de la longévité pour des gars de même. Là. C'est des gars extrêmement intelligents. Ils savent gérer leur énergie.
Tout à fait. Hein? Belle analyse que tu viens de faire. C'est super intéressant. Puis on pourrait dire peut-être la même chose dans le cas de Jonathan Toews. Bergeron puis Toews, ils se ressemblent aussi. Puis Toews connaît des...
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, Jonathan Toews, sa carrière, en termes de points du moins, là, on se disait, est-ce qu'il a perdu la touche? Mais finalement, il s'est repris. Puis là, depuis le mois de janvier, c'est 17 points en 14 matchs pour le bon Jonathan Toews. Il y a plus de points que Patrick Kane depuis le mois de janvier. Dans son cas, ils se ressemblent, je trouve, Toews et Bergeron, c'est des gars de...
Tout à fait, c'est le même genre de joueur, ils sont sur le même moule.
C'est ça. Tu vois, l'année passée, 81 points pour Toews, alors que il y en a qui l'avaient droppé dans les poules, puis cette année, 45 points, 55 matchs. Tu sais, le bon vieux Jonathan Toews, puis il a 31 ans, il est jeune encore, Jonathan Toews. C'est intéressant.
Non, c'est ça, on dirait que... les gars de même, on dirait que ça fait 25 ans qu'ils sont dans la ligue, mais... Ils ont tellement été dominants jeunes que
exact.
C'est ça, c'est des phénomènes.
C'est un phénomène. Jonathan Toews de 928 matchs de jouer. D'après moi, il en reste pas mal dans les jambes quand même. C'est un bon candidat pour frôler les 1300, 1400 peut-être matchs. Là, je me souviens au début de l'année, Phil, un moment donné, on parlait à Boston, Torrey Krug ou Charlie McAvoy.
Oui.
Qui allait avoir
le
plus de points. Là-dessus, on...
Je pense à ça à chaque fois que je vois Krug qui fait des points.
Ah oui, écoute, je sais pas que je vais relancer ça, mais toi, t'avais plus dit que McAvoy, puis moi, j'avais dit que je pensais que Krug allait avoir plus de points. Mais je pensais pas que McAvoy allait connaître une down year à ce point-là. Je sais pas.
Mais il joue bien en Chris McAvoy, pareil. C'est ça l'affaire.
Ben écoute, t'as tellement raison.
Il joue du gros hockey, c'est ça, mais les points sont pas tout le temps là. Mais quand ça compte, là, tu le veux sur la glace, ce
gars-là. Écoute,
gars-là,
il est pas gros, mais il frappe fort. Puis
il a des mains. C'est ça. Je pense que là, ce qui arrive, c'est que probablement, c'est ça. Là, t'as Krug qui run vraiment le power play, mais l'autre, il serait capable de. Mais McAvoy, il me fait un petit peu penser à Doughty.
Ouais.
Dans le sens que il joue la game, une game très, très. Défensivement, il est bon. Tu sais, ça, il frappe. Il a un talent offensif, mais tu sais, il s'en sert pas. C'est pas comme si c'était le gros de sa game. T'sais, il joue la game de hockey pour gagner des games pour son équipe.
Ouais,
c'est,
ouais.
il pense pas à ses points, je pense. Fait que c'est là qu'à un moment donné, oui, tu le veux dans ton équipe, dans un pool, le Krug, tandis que Krug, lui, est beaucoup plus offensif que défensif. Fait que,
mais tu sais, je suis complètement d'accord avec toi. Puis il a 22 ans, McAvoy, c'est sa troisième saison complète dans la Ligue. Les défenseurs, c'est dur à prédire. Hein. Moi, j'ai moins de facilité avec les défenseurs. Là, mais une chose que je suis certain, par contre, c'est que ce gars-là va connaître des saisons de 50 points et plus bientôt. Je veux dire.
Je suis pas mal sûr aussi.
Ouais. Charlie McAvoy, là, c'est Golden Retriever, comme on dit. Il y en a un que je veux que j'ai pas parlé, que Pierre-Luc Dubois, 15 points à ses 16 derniers matchs avec Columbus. Un peu tranquille, un peu under the radar, comme ils disent en anglais, avec l'expression, avec la prononciation, ça accroche.
Oui, mais. Oui. Columbus va bien ces temps-ci.
Ben oui, Columbus.
Fait que c'est pas, ça, d'après moi, c'est pas étranger. T'as Elvis qui arrête tout, puis t'as Dubois qui produit. Fait qu'à un moment donné, c'est pas sorcier, il gagne des matchs. Là.
Oui, puis Pierre-Luc Dubois, ben tu sais, on en entend pas beaucoup parler. On dirait qu'il passe en dessous du radar, mais c'est tout un joueur d'hockey, Pierre-Luc Dubois. Hein, puis il a pas fini de progresser, moi, je crois, dans son cas. Là. Il connaît une bonne fin de saison, puis c'est la locomotive présentement de Columbus. Depuis le mois de janvier, il mène son équipe avec 15 points, puis le deuxième, c'est Zach Werenski avec 10 points. Seth Jones avec 8,
good boy, ouais.
Puis le seul attaquant, l'attaquant qui le suit, c'est Nick Foligno avec 8 points en 16 matchs. Donc présentement, là, okay. Tu sais, cette équipe-là, là, c'est...
Pas de Josh Anderson?
Non, mais Josh Anderson, écoute, je me suis planté solide, mais ça reste un bon joueur de hockey. Puis je vais te dire de quoi même, là, un moment donné, il va refaire 50-60 points dans la Ligue nationale. C'est peut-être l'année prochaine, Josh Anderson, mais je perds pas espoir. Écoute, en terminant, on a parlé de belles surprises, tout ça. Je m'en vais te parler des déceptions, mais avant ça, j'ai une autre petite question pour toi par rapport à des belles surprises. Peux-tu me nommer, Phil, le joueur qui a le plus de points depuis le 1er janvier 2020 pour les Golden Knights?
Ah, d'après moi, c'est Pacioretty.
C'est le bon vieux Paul Stastny.
Ah, ouais, OK.
Eh oui, wow. Très surpris moi aussi. Paul Stastny qui a 15 points à ses 14 derniers matchs.
Okay.
Et Pacioretty en a 11. Shea Theodore en a 14 à ses 14 derniers. Bonne séquence pour le défenseur. Lui aussi, Shea Theodore, hein, on parlait de défenseur, c'en est un qui n'est pas piqué des verres. Mais surprise, Paul Stastny, le bon vieux Paul Stastny, ça c'est des joueurs de caractère. Hein. En fin de saison comme ça, connaissent une saison pas très bonne. Puis là, boum, si Paul Stastny semble s'être mis en marche. C'est des bonnes nouvelles pour les Knights parce que tu veux un Paul Stastny qui répond présent quand même.
Ben, c'est sûr, ils ont quand même un bon line-up eux. Ils ont quand même été chercher une grosse ligne là, en Pacioretty, Stone puis Stastny justement en un an. Là. Ils ont eu leur première année que c'était sorti de nulle part un peu. La deuxième année, l'an passé, ouais. Ils ont été capables justement d'aller chercher. De slacker une autre première ligne, si on veut. Ben, une première ligne parce que. Leur première ligne de la première année, c'est une deuxième ligne dans la Ligue nationale, on s'entend quand même. Mais là, ils ont vraiment deux bonnes lignes offensives. Puis non, les Knights...
Ben oui, puis Marchessault qui a été blessé, mais qui connaît des bons moments avec, avec Riley Smith aussi, qui est dans cette équipe-là, faut pas l'oublier. C'est juste que William Carlson est blessé, voyons voir. Mais c'est une équipe qui, encore une fois, là, est à prendre en considération.
Je pense que c'est une équipe qui est tough à jouer là, quand même. Ils se sont mis ils ont une identité, disons, cette équipe-là. Puis quand tu joues contre Vegas, ça sera pas une game facile. Fait que, puis en plus, t'as Fleury dans les nets, que le gars, ça y tente encore. Il a encore du gros fun à jouer au hockey, fait que c'est toujours dangereux. Là, fait que, il peut encore aller voler des matchs, lui.
Tout à fait. Bon, maintenant, j'aimerais ça te parler un petit peu des déceptions. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui grosses déceptions, des gars qu'on s'attendait qui performent, qui ne performent pas en fin de saison. Ça a été dur de trouver des gars qui sous-performaient. Mais quelque chose de très frappant, à Calgary, leurs gros canons sont relativement endormis. Ça, c'est ça qui m'a vraiment
Gaudreau,
surpris.
Il n'y a pas le... C'est bizarre, lui, ce qui se passe. Avec ça. Il y a une saison bien ordinaire, là.
Ben, on en parlait en plus de Johnny Gaudreau dans notre podcast au début de l'année en disant « calmez, inquiétez-vous pas avec ça, Johnny Gaudreau, ça va repartir ». Il y a quand même 13 points à ses 14 derniers matchs depuis le mois de janvier. Mais il y a une saison qui est très décevante. Puis ce qui est frappant, c'est ses coéquipiers qui sont supposés être les gros canons. Elias Lindholm, Sean Monahan, puis Matthew Tkachuk. Lindholm a 11 points en 14 matchs. Monahan, 6 en 14. Oh. Puis Tkachuk, 8 en 14.
Ouais.
Dur à expliquer quand
exact,
même.
Exact. J'ai aucune explication à ça. Ils ont changé le coach. Des fois, quand... Je pense que ça avait kické un peu pendant les premiers matchs, mais là, ça a l'air de... Ben, tu sais, Gaudreau, t'as dit 13 en 14, c'est sûr, c'est même ça, c'est en bas un peu de ce qu'il nous a montré dans les deux dernières années.
Ben écoute, l'année passée, là, on a tendance à l'oublier, mais ce gars-là a fait 99 ouais. points. Il était à un point de 100 points l'année ouais, passée. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est... 44 en 56 pour un gars qui a fait quasiment 100 points, c'est... C'est surprenant, disons.
Ben non, restons dans les... On fera une déception plus tard. Restons dans les surprises.
Les bonnes nouvelles.
Kovalchuk, Kalik. Hey, sérieusement, je le vois jouer puis je me sens comme un kid de 12 ans. Là. Il
amène beaucoup d'émotions. C'est vraiment un peu l'effet Kovalev. C'est les Russes, j'ai l'impression qu'il y a un amour pour le hockey. Il y a une compréhension de ce que c'est que... qu'une culture hockey. Ouais. Là, je pense que Kovalchuk, il n'avait jamais évolué dans un marché d'hockey comme celui de Montréal, un marché canadien, un marché de passionnés. Je pense que là, il a fait « Oh, tabarou,
c'est ça, là.
36
c'est
ans,
ça, le hockey,
il a
ouais.
fait hockey. » Tu sais, mes amis russes m'en ont peut-être parlé, ouais. mais il faut le voir pour le croire. Puis, écoute, moi, j'ai eu la chance de parler à quelques joueurs d'hockey aussi, des Québécois, tu sais, puis qui ont joué au Centre Bell, qui ont marqué des buts. Ça, c'est incroyable. Je pense que le Centre Bell, c'est quelque chose d'incroyable.
C'est un temple.
Aussi, là. T'arrives là. Ben oui, tu marques un but en prolongation au Centre Bell, puis tu réagis comme Kovalchuk. Écoute, c'est ça qu'on veut. On veut de l'émotion. Ouais. On veut ça. On veut des gars comme ça. Puis moi, écoute, Kovalchuk, je l'ai toujours aimé. C'est quand je jouais midget, j'ai changé mon numéro pour le 17 parce ouais. que je trippais sur Kovalchuk. Tu sais, j'ai toujours aimé ce joueur-là. Puis moi, écoute, l'année prochaine, là, d'un, tu t'échanges pas Kovalchuk, puis de deux, tu le signes l'année prochaine. Ouais. Parce que c'est un vétéran qui est motivé, puis ça en prend des gars pour encadrer les jeunes.
Tout à fait.
Puis viens pas me dire, hey, l'année prochaine, il sera plus capable. Hey. Écoute, s'il sera plus capable, on arrangera.
Ça, c'est ça. Mais... Oh, et là, tu le veux dans ton line-up. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui amène de. Tu sais, il y avait le match contre Toronto, les chances de marquer qu'il y a eu. C'est ouais. à chaque fois qu'il touche au puck, il y a de quoi qui se passe là, puis il y a des
écoute puis
il y a exactement là, tout ce que les Canadiens avaient pas, un vrai sniper qui un dangereux
un talented
là.
Guy
un
là.
Dangereux
ouais, exactement
là. Un gars que quand exactement. Il y a le puck dans la zone adverse, les l'autre équipe esti ils shake un peu parce qu'ils savent pas ce qu'il va faire là, tu sais.
Puis son apport est à 5 contre 5 est intéressant, oui, mais c'est vraiment sur le power play puis en prolongation à 3 contre 3, puis dans les shootouts. T'sais, ces trois éléments, ces trois facettes du jeu-là, où est-ce que là, tu vois Kovalchuk qui a vraiment un impact significatif.
Ouais. Ouais. C'est un gars comme Drouin devrait prendre cette chaise-là. C'est la chaise que Drouin était supposé d'avoir
exact.
Quand il est arrivé. Mais là, tu vois la différence entre un gars comme un top all of. Ben, il va peut-être pas être au tremble de la renommée à cause qu'il est parti en Russie, mais on s'entend que. Il y a Hall of Fame talent, là, Kovalchuk. Mais, oui. mais c'est là la différence entre un gars comme Drouin qui a pas tout mis ses outils ensemble, puis un gars comme Kovalchuk qui il se sert de ses forces solides, puis ça paraît. Là.
Ben écoute, c'est rien contre Jonathan Drouin, mais je pense pas qu'on peut comparer ces deux joueurs-là. C'est pas la même calibre, c'est pas la même trempe. Kovalchuk, c'est un first pick overall.
Ouais. Il est pas lent, mettons. Le monde dit, quand il a été le chercher, là, ça, il est 36 ans, il avance plus, calique. J'aimerais ça puis avancer de même, moi, sur une glace.
Ben, écoute, on en a parlé, là, mais moi, les chroniqueurs, les chroniqueurs de l'écrit là, au Québec là, qui couvrent le Canadien, j'ai l'impression que certains chroniqueurs là, sont sur la galerie de presse, là, sont tellement blasés parce que ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils écoutent, ils regardent même plus le match, ils écrivent leur article. Puis pendant qu'ils écrivent leur article en parlant de Kovalchuk qui est trop vieux, puis de Nate Thompson qui est vieux, puis de si, ils voient pas qu'est-ce que les gars amènent dans l'équipe.
Puis comme tu as dit, puis ça, c'est un élément qui est ultra sous-estimé dans un club. Tu as besoin des vétérans qui ont vu à la game pour montrer à tes jeunes talents c'est quoi être un vrai pro. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui a manqué là, aux Oilers Edmonton là, dans les débuts des années 2010. Là. C'était rempli de jeunes, puis excuse, là, mais une gang de 22 ans, là, on s'en fout que ce soit la Ligue nationale. Là. C'est des gars de 22, 23 ans pareil. Là. Fait que ça t'en prend là, des plus vieux là, qui ont leur vie... Leur vie est rangée, ils ont des enfants, ils ont leur femme. Les gars, ils se présentent à chaque pratique, puis ils ont la pédale dans le fond, puis ils pensent pas
quand
que...
Quand t'as 22-23 ans, puis t'as un gars comme Nate Thompson, qui est un alcoolique anonyme, qui a du vécu, qui est dans la ligue, parce que lui, il se reprend en main, puis il dit au kid, « Hey, let's go, on s'en va, on fait un push. » Ben, le kid de 22-23 ans, il punk de quoi, là? Il dit tabarnak, oui, tu sais. Ouais. Fait que... Moi, j'ai toujours été un fan de Nate Thompson, puis ce gars-là est important pour le Canadien de Montréal, beaucoup plus qu'on le pense, beaucoup plus que ce que les chroniqueurs peuvent dire, qu'on devrait l'échanger, parce que là, on fera pas les séries. Là. Gabin, là, t'échanges Nate Thompson, tu vas avoir un choix de cinquième ronde, on s'en crisse-tu d'un choix de cinquième ronde?
Il vaut plus que ça, mais c'est une valeur qui est pas hockey comme telle, tu sais. C'est ça que beaucoup de gens oublient là, dans
c'est
une
du
équipe.
In-house value. Ah. C'est du in-house value qu'on appelle. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi, j'ai ça.
Moi, j'étais comme... Hey, j'avais un point d'interrogation en haut de ma tête quand t'as dit ça. J'étais comme, OK, terme que j'ai jamais utilisé et que j'ai pas vu trop souvent.
Ben, ça fait du sens.
Ouais, non, c'est bon,
ben,
c'est
du in-house.
OK, on va essayer de le plugger une couple de fois là, à l'avenir pour ça va devenir un... Pour que les chroniqueurs l'utilisent.
Fait que cool, ben merci de nous avoir écoutés encore une fois cette fois-ci. Puis partagez notre podcast, parlez-en, écoute, toujours agréable. Phil et moi, on fait ça de manière bien bénévole, puis on a du fun aussi à avoir des commentaires de votre part, puis de sentir une rétroaction. Fait que n'hésitez pas à nous mettre dans le loop.
Yes. Bon, ben Dan.
Fait que yes.
Bonne conclu là, t'es meilleur pour moi que moi pour conclure. Fait que j'ai conclu là.
Alright, là il y a une petite musique qui joue, tu l'entends, mais on fait la petite musique, ça aide, hein? La petite musique, ça aide tout le temps à finir. Ouais. Fait que salut tout le monde, écoute, ça met le fun, on se revoit bientôt. Puis keep it up, keep it real, keep it hockey. C'est dégueulasse,
in-house.
In-house, ouais, keep it in-house.